français
entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous. C'est pas trop tôt, direz-vous. Bah oui, mais mieux vaut tard que jamais. Voici donc le retour des poteaux, votre podcast de rugby préféré. Et ces experts que le monde de l'Ovalie nous envie, ou pas d'ailleurs. Les poteaux de retour, je l'espère, en pleine forme pour une saison qui a déjà débuté, qui s'annonce magnifique. Magnifique, voilà un adjectif qui sied à merveille à notre Denis Charvet national, sur lequel les années passent et ne semblent avoir aucun effet. Ça va, mon Denis ?
Tout à fait.
Il a coupé les cheveux comme à la rentrée.
Ouais,
il a abandonné
les
cheveux longs,
j'en ai marre.
Il est magnifique comme ça. En pleine forme, Denis ?
Ça va, en pleine forme.
Eh ben, très bien. Moins beau, mais peut-être tout aussi efficace, sinon plus. Le trio de choc du rugby sur RMC, j'ai nommé Wilfried Templier, Jeff Paturo et Pierre Amiche. Riri, Fifi, Loulou, les inséparables. Comment ça va, les garçons ?
Ça va, toujours pas beau, mais
très
ça
bien,
va.
Très bien, très bien.
Pas grave, hein.
T'es beau, Jeff.
Merci. C'est la beauté intérieure qui compte, je sais pas quoi. Là.
Tout est relatif.
Merci. Une belle bande de bras cassés avec lesquels nous allons donc chaque lundi revisiter l'actualité du rugby dans son ensemble. Le top 14, évidemment, l'équipe de France, et puis également la préparation à la Coupe du Monde. On vous proposera une rubrique consacrée justement à cette préparation, parce que oui, ça approche. C'est dans deux ans, nous serons en pleine Coupe du Monde, et ce sera magnifique, on a d'y être. Pour cette première, on va s'intéresser dans quelques instants à la situation du Stade Rochelet. J'en vois deux qui baissent la tête, je ne sais pas pourquoi. Le finaliste malheureux du top 14 et de la Coupe d'Europe connaît quelques ratés au démarrage cette saison. 3 défaites en 3 matchs. Alors comment l'expliquer ? Faut-il s'en inquiéter ? On entre en mêlée dans quelques instants. On verra aussi que ça ne va pas bien fort, et encore moins fort d'ailleurs pour le Stade français. Encore plus mal, lanterne rouge, toujours fanée en termes de points au classement. Les poteaux, c'est aussi la désignation chaque semaine de notre frelon, le joueur qui a marqué le week-end. Aujourd'hui, gros plan sur Demba Bamba, le pilier lyonnais qui a vécu une semaine agitée et a répondu en costaud sur le terrain à des attaques viles et racistes. On vous explique tout ça tout à l'heure. Et puis donc, je vous le disais, la Coupe du Monde de rugby. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipe de Nouvelle-Zélande qui, ce matin, est redevenue la nation numéro 1 mondiale après avoir marché sur ses adversaires dans le Rugby Championship. Messieurs, êtes-vous prêts ? Vos protège-dents sont en place, les épaules bien chauffées, oui ?
On y est.
Bah oui, parce que...
Au casque !
Voici l'heure de la mêlée des poteaux.
L'action, mêlée, jeu !
Ballon récupéré par les Toulousains, le turnover en faveur des Toulousains, c'est terminé ! Maxime Hénard qui met un terme à cette rencontre, et voilà, La Rochelle a eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser, ils ont fait des mauvais choix par moment, et ils s'inclinent pour leur première à deux flancs de la saison, victoire 20-16 pour Toulouse.
Victoire du Racing 92-23-10, deux essais marqués par les Franciliens, ça a été un match âpre, vraiment, vraiment un gros choc entre deux équipes candidates pour le titre en fin de saison de ce top 14, deuxième défaite pour les Rochelais qui se déplaceront à Clermont la semaine prochaine.
L'interception et l'essai Rochelais, c'est terminé, victoire de Clermont 23-22, point de bonus défensif pour La Rochelle, première victoire et houle de soulagement pour les Clermontois cette saison, troisième défaite en 3 matchs pour les Rochelais.
Manque de réalisme total, donc oui, beaucoup de regrets. On avait l'impression un peu de revivre le même scénario que la semaine dernière. La frustration, c'est ce qui domine sur ce match et sur le match de la semaine dernière. C'est difficile.
La Rochelle qui, ce lundi, n'occupe donc que la 13e place au classement, ne devançant que de 2 petits points seulement un autre grand malade du top 14, à savoir le Stade français, qui en 3 matchs n'a pas pu décrocher ne serait-ce qu'un seul petit point, c'est du jamais vu depuis des siècles. Alors, ce n'est pas la crise, en tout cas pas encore à La Rochelle, mais pas vraiment rassurant. Wilfried, tu vas devoir déposer ton maillot Rochelet et nous expliquer les raisons de cette situation. Elles sont nombreuses, elles sont évoquées. Il y a le calendrier qui est démentiel, un entraîneur en rodage, un effectif peut-être un peu moins saignant. C'est quoi le problème, docteur Templier ?
Le diagnostic n'est pas simple. Il y a peut-être de multiples facteurs de contamination pour les Rochelais. On va dire en premier lieu, on va mettre le manque de précision dans le jeu. Comme Toulouse, La Rochelle a repris tard. Ça se voit moins pour le Stade Toulousain. Et La Rochelle était la seule équipe à pas jouer de match amical. Il nous semble quand même que le collectif manque un peu d'automatisme, surtout quand cette équipe rentre dans les zones de marque en fait. Imaginez que le Stade Rochelais aujourd'hui la 12e attaque avec 16 points de moyenne seulement, quand sur la saison passée ils en marqué 28 par match. Vous voyez la différence, hein. 3 essais inscrits également seulement. Il n'y a que Pau qui a fait moins bien avec un seul essai. Alors, est-ce que le champ de head coach Gibbs par O'Gara explique ça ? Vous savez que l'Irlandais était là la saison passée, mais on voit tout le monde que l'équipe rochelaise porte le ballon à outrance, hein. Ce fut le cas au Racing la semaine dernière, que les Rochelais avaient pourtant battu en demi-finale avec une toute autre stratégie. Si vous vous rappelez, à Lille, ce qu'ils avaient fait pour battre le Racing, ils avaient occupé le terrain. Et enfin, Sans oublier la suspension de Skelton, soulignons que des joueurs blessés manquent, comme Vito, Saint-Zel, Danti ou Retière, que Kerr, Barlow, Botia et Dulin n'étaient pas là lors des deux premières journées, et que La Rochelle a toujours son problème de 10. West et Plisson ont encore loupé des points au pied. Et samedi soir, Plisson a même fait une erreur de défense monumentale à Clermont qui coûte l'essai adverse et peut-être le match. Vous me direz, oui, ça ira mieux avec Astoy, le Palois, futur recrue. Ce sera l'an prochain. Et pas sûr que les coachs sont arrivés, mettent en confiance cette saison West et Plisson, oui. Deux joueurs qui sont en fin de contrat.
Oui, ça, je dois dire que c'est encore n'importe quoi. C'est-à-dire que la saison débute. On sait déjà que le titulaire à l'ouverture la saison prochaine, ce sera ni l'un ni l'autre, ce sera un troisième. Autant dire que pour motiver les mecs qui sont sur le terrain, ça va pas être facile.
Même hein. Le foot le fait pas. On a inventé ça. On est le plus fort. Non, mais c'est scandaleux. C'est vrai que c'est un truc. J'ai horreur de ça. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, pour en revenir à La Rochelle, moi, je suis pas inquiet du tout pour eux. J'ai vu tous les trois premiers matchs et ils sont assez. C'est vrai que le collectif est pas encore bien huilé, mais quand il va y avoir Jonathan Danti qui va revenir au centre, il va amener de l'épaisseur au centre. Ça va quand même. Avancé, mais voilà, c'est un début de saison. Ils ont choisi de pas faire des matchs d'entraînement, de préparation.
Ni de stage d'ailleurs.
Je pense que ça
compte. Enfin, je suis d'accord peut-être pour en vue de la suite et la fin de la saison. Mais enfin, quand tu sais que dans ton calendrier tu vas prendre trois costauds d'entrée, tu fais pas un stage de préparation, tu fais pas de match.
Ouais,
amical.
Mais le choix est pas bon. Ils ont perdu trois matchs. Donc, mais ce que j'ai vu, le rendu, moi, ils sont costauds, ils sont très costauds. C'est dense, c'est voilà, je vois pas qui va les perturber.
Le Racing, Toulouse et
oui,
et Clermont.
Tu regardes les trois matchs, ils peuvent les gagner les trois.
Sauf
c'est
que
c'est quand même incroyable. Alors, tu vas me dire, ils ont perdu. Ouais. Mais parce qu'il y a manqué de maîtrise en fin de match, on s'est un peu trop entêté à vouloir trop jouer devant, hein, on aurait pu écarter des ballons, on l'a pas fait. Et puis il y a quand même ce problème majeur de buteur. Après, tu peux tout expliquer. S'ils ont un buteur, ils ne perdent pas au moins deux matchs. Ils perdent pas contre Toulouse, ils perdent pas.
Déjà, s'ils prennent les points. Parce que parfois ils sont vus un peu beaux, peut-être aussi sur le
premier
match.
Mais parce que tu n'as pas le buteur, quand tu prends pas les points, c'est parce qu'aussi tu as ce faiblesse d'un buteur qui n'est pas à la hauteur. C'est malheureux à dire, mais sans un grand buteur aujourd'hui, tu peux faire des merveilles.
Et est-ce que, Wilfried le disait, est-ce que le changement de staff ne va pas avoir des conséquences? Ronan O'Gara est quelqu'un de très, très exigeant, qui va peut-être avoir.
Et qui en matière de tir au but, si on entendait pas mal.
Mais ouais. Qui va peut-être peser sur l'esprit de certains joueurs. C'est ce qu'on me disait des gens qui le connaissent bien. C'est qu'il mettra jamais l'eau dans son vin, Ronan O'Gara. Et il peut aller au bout de l'extrême avec des joueurs. Il y en a certains qui commencent peut-être déjà à en avoir un peu marre. Ça commence à être tendu avec certains joueurs. Et est-ce que le fait que Gibbs soit parti, que Grégory Pata aussi, qui faisait le tampon entre les différents coachs, soit parti, est-ce que ça n'a pas changé un peu la donne, en fait?
Elle donne sur le terrain. Moi, je vois encore quand même de très bons joueurs. Je dis, il manque pas grand-chose pour qu'ils s'en sortent. Et encore une fois, le problème relationnel de O'Gara, il existe. On le sait très bien. Il est parti du Racing. Ça s'est pas forcément très bien passé. Mais après, bon, tu sais comment c'est. Il faut avoir de l'autorité sur un groupe pour réussir. Est-ce qu'il va l'avoir? Je ne sais pas.
Il y a quand même un vrai problème de stabilité du staff de cette équipe de La Rochelle, ce qui a changé régulièrement en 3 ans. On est passé de Colazo à Garbajosa, à Gibbs, maintenant à O'Gara, et O'Gara qui est déjà mis en cause. Pierre, ça aussi, même si les résultats ont été exceptionnels la saison dernière, c'est bien d'avoir un staff un peu stable.
C'est bien, mais après, honnêtement, moi, je suis comme Denis, je suis pas vraiment inquiet ni par l'instabilité, ni par le niveau présenté, ni par le fait qu'ils prennent pas les points au pied. Mais ce que je vois, c'est que Ronan O'Gara, sur les 3 premiers matchs, il a voulu mettre beaucoup de volume sur les 3 matchs parce que l'équipe est encore en rodage physique. Et l'important, et on l'a vu l'année dernière pour La Rochelle, c'est pas d'être prêt à l'automne, c'est d'être prêt au printemps. Et que la saison l'année dernière, ils ont fini sur les rotules. Alors peut-être que le pari d'O'Gara, c'est d'accepter le fait que, allez, le calendrier était difficile et 3 défaites, c'est pas dramatique parce que ces défaites-là, c'était les mêmes l'année dernière. Ils ont perdu au Racing, ils ont perdu à domicile contre Toulouse et ils ont perdu à Clermont. Et au final, ils finissent troisième du championnat. Donc, c'est clair que personne pourra vous affirmer que le fait que perdre 3 matchs, c'est pas grave ou c'est pas embêtant. Mais dans la situation de La Rochelle, avec une saison à rallonge l'année dernière, je suis pas spécialement inquiet, surtout parce que le contenu est bon. Parce que La Rochelle est pas nulle sur le contenu.
Ils ont les occasions.
Non, ils sont pas nuls du tout.
Faut pas se rater à domicile contre Biarritz ce week-end, quoi.
Si on compare avec les prestations du Stade Français, par exemple.
Ah, je suis beaucoup moins inquiet.
Non, mais on est.
T'es beaucoup moins inquiet pour le Stade Français?
Pour La Rochelle.
Le contenu est bon à La Rochelle. Le Stade Français, le contenu est très moyen.
C'est ça. La Rochelle, elle est moyenne de gagner ses matchs. Ils ont des occasions. Et juste pour l'instant, il manque la petite différence qui peut s'expliquer physiquement. parce qu'aujourd'hui, les joueurs ne sont pas encore à 100%, parce qu'il manque quelques joueurs importants, Danti, Skelton qui ne sont pas là, Boccia, il doit être à 60%. Tous ces joueurs-là à 100%, ce n'est pas la même équipe.
Alors, ils devraient aller vers plus de précision, hein, Christophe. Ils devraient aller vers plus de précision. C'est ce qui leur manque, la dernière passe, les zones de marque. Ça va venir, certainement.
Alors, justement, à ce propos, je vous propose d'écouter Ronan Nogara, justement interrogé à l'issue de la rencontre et de la défaite face à Clermont. Il parle justement de ce manque de précision.
C'est assez simple process, cette défaite. Quand tu manques precision et tu manques encore de precision et tu manques encore de precision, tu ne mérites pas. C'est pas nécessaire de chercher trop profond. C'est clair pour tout le monde. Dans quelques moments clés, on relâche la pression trop facilement et boum, match perdu.
Voilà, manque de précision. Après, manque de précision aussi pour le buteur. Alors, ça va être un problème quand même cette année, ça, ce problème.
Un gros problème. Mais rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit au lendemain de la finale. Au lendemain de la finale de la Coupe d'Europe, c'est ce que
j'avais dit. Ça n'a pas été résolu, là. Il faut attendre la finale championnat aussi.
La finale championnat, ça a été pareil. C'était bis repetita de la finale de la Coupe d'Europe.
Mais d'entre les poteaux, c'était ce qu'on avait dit et ce qu'on était tous d'accord sur le fait que sans grand buteur, cette équipe ne gagnerait pas de titre. Gagner des matchs, c'est possible. Gagner des titres, c'est difficile sans buteur.
Chercher avec ça, avec la précision du tir au but. Alors, on l'a vu avec Toulouse.
Mais finalement, Plisson, il loupe 8 points sur le premier match et un drop, une pénalité sur le troisième. C'est pas ça qui les fait perdre fondamentalement. Oui. C'est-à-dire que ce qui manque, c'est surtout, ils ont 5 occasions de marquer contre Clermont et ils en mettent aucune.
Accessoirement, ils prennent un rouge sur le premier match comme en finale de Coupe d'Europe contre Toulouse aussi. Hein.
Ça les aide pas. Oui, en plus, non, mais t'as raison de le préciser. Mais
et Racing, il n'y a qu'une équipe en première mi-temps. Moi, hein, ils ont la possession terrible. Hein.
Ils auraient pu jouer pendant 2 heures.
Je pense que les prochains matchs de La Rochelle vont être gagnants et vont être.
D'accord. Donc pour vous, il n'y a pas d'inquiétude. Non. C'est un mauvais
aucune, parce qu'encore une fois, le rendu est bon.
Et puis, de toute façon, l'avantage du rugby, c'est que tu peux
être sixième et finir champion.
Il faut rentrer dans les six. Il faut rentrer dans les six parce que pour l'instant, accrocher Toulouse, ce sera quand même compliqué d'ores et déjà. Alors, vous évoquiez également le cas du Stade Français qui, lui, prend rouste sur rouste, qui n'a marqué aucun point, hein, ni bonus offensif, ni bonus défensif depuis le début de la partie.
C'est assez régulier, 0 points, 37 points.
Ils ont même failli être fanis face au RCT ce dimanche. Le Stade Français arrivait avec d'autres ambitions en début de saison. On se disait que voilà, le recrutement avait été intelligent.
Que la fin de saison avait été intéressante et optimiste.
La fin de saison, évidemment, leur permettait d'espérer de belles choses. Or là, pour l'instant, c'est le néant.
Ils sont cataclysmiques. Surtout le match face à Toulon. Honnêtement, le contenu.
Ouais, mais ils avaient fait tourner terriblement face à Toulon.
Il y a eu aussi un virus dans la semaine.
Non, mais c'est vrai. Il y a des raisons qui peuvent l'expliquer.
Oui, il y a des raisons.
Mais le rendu. Enfin, je veux pas être trop sévère. Alors, mais c'est pas le niveau du top 14 aujourd'hui. Ils gagnent pas un duel. Ils prennent vraiment des groupés pénétrants monstrueux. Ils se font traverser sur des ballons en première main. Il y a quand même un essai de Toulon. C'est une relance de 80 mètres. Je pense qu'en face, les Parisiens, c'est du toucher. Et c'est terrible de voir ça parce que c'est une équipe qui, sur le papier, est pas nulle.
Mais c'est pas. Tu parles du dernier match, mais regardons les deux matchs avant.
C'est-à-dire
le rendu, c'est le même. C'est-à-dire que contre le Racing, ils se font bouffer sur l'agressivité.
Ils sont là en mêlée sur le premier match.
Il y a personne qui gagne des duels. Enfin bon. C'est inquiétant, oui. Pour moi, c'est inquiétant parce qu'il va falloir, trouver des solutions, lesquelles je les ai pas. Mais
est-ce que c'est un problème d'effectif de Nice, tout simplement aussi?
Et je pense que après,
ils sont un peu courts, mais c'est
facile de critiquer. Oui, mais il y a quand même de très bons joueurs. Moi, je pense que le départ de Ficou a été assez maladroit. Que Danti, on doit le garder parce que c'est un enfant du club. Encore une fois, c'est un symbole majeur du club. On s'en sépare. Il y en a plus de symbole. Et moi, ce que je vois sur les 3 derniers matchs, je pense qu'il manque de leader de terrain. Voilà. Moi, pour moi, il manque 1, voire 2, 3 leaders de terrain.
J'ai quand même une petite pensée pour l'OMAPE qui doit se dire dans quel bourbier je suis venu me mettre. Parce que 3 journées, 37 points de moyenne.
Il n'est pas bon non plus, mais bon.
Il faut lui laisser du temps, les gars.
Il découvre le top 14. Tiens, il y en a un qui était leader dans cette équipe du Stade Français. Il le reste, même s'il n'est plus au Stade Français. C'est le seul qui soit venu s'exprimer hier à l'issue de la défaite du Stade Français. Le problème, c'est que depuis, il joue à Toulon, mais il a expliqué. Il a expliqué la défaite du Stade Français. On l'écoute. Sergio Parisse.
Ils sont 3 matchs et 3 défaites, donc c'est sûr que c'est pour eux, à niveau comptable, à niveau de la confiance, assez compliqué. Et ça me fait mal de les voir en difficulté. Pour avoir vécu pas mal d'années en Stade Français avec de la difficulté, je sais que dans la difficulté, le club, il a toujours su rebondir et s'en sortir. Donc, certes, c'est un début de championnat très compliqué pour eux, mais je suis convaincu qu'ils vont se resserrer et que la semaine prochaine, ils vont bien préparer la réception de Casse pour lancer un petit peu sur leur saison.
Il est bon, finalement, il devrait l'engager au Stade français, ce petit gars-là, hein, Wilfried.
Surtout que tu pouvais le garder. Ouais, hein. Il est bon, il a été bon hier.
Ouais, toujours, hein, 38 ans, hein, ouais. La semaine dernière.
38 ans, il a dit que c'est la dernière saison, là, t'as vu,
c'est
maman qui veut pas.
Sur Canal Plus, il a dit si j'offre une saison de plus, ma femme, elle me tue.
Tu l'imites très bien.
Merci.
C'est très mauvais. Des qualités de l'imitateur, tu vois, qu'on ne soupçonnait pas.
Merci.
Ah, bravo.
Merci. Ah, bon, moi, j'arrête ma carrière.
Le Stade français qui disputera un match importantissime, ce sera face à Castres la semaine prochaine.
Alors, généralement, Castres prend des roustes à Paris.
Ah, ouais. Généralement, tu peux l'enlever, là, parce que je pense qu'ils vont arriver à gonfler à bloc, hein, Castres. Parce que là, c'est vrai, là, ils se disent que la bête est blessée.
Il n'y a plus joker à griller côté Stade français. Et puis la pression, elle va être quand même énorme. Hein. Je ne sais pas s'ils vont venir avec leur Sudaf, là.
Non. C'est pas possible, il ne peut pas jouer.
Non, mais
pour ceux qui n'ont pas vu.
Pour ceux qui n'ont pas vu, là. Ouais. Mais c'est quand même un peu un cauchemar. On a l'impression qu'on revit les mêmes saisons à le Stade français. Quoi.
Une saison sur deux. Une saison sur deux.
Dernièrement, ils se sont refait la cerise.
Voilà. Il y a deux ans, ils étaient quand même en position de descendre quand on a arrêté le championnat. L'année dernière, c'était presque un miracle. Ils ont accroché les phases finales. On se rappelle du discours de Gonzalo Quesada quand même, quand ils accrochent les phases finales, où il dit on ne vient pas pour faire de la figuration, on croit au titre de champion de France, etc. Résultat en barrage, ils se font ouvrir en deux. Et depuis, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mis à part le fait qu'ils ont perdu des joueurs. On pense à Matera, Danti. C'est vrai que le Stade français, je ne veux pas être dans un oiseau de mauvaise augure, mais je suis très inquiet.
Voilà. Ouais. Gonzalo Quesada, Jeff, toi qui le connais bien, est-ce qu'il commence à être un peu inquiet pour le devenir de son club, mais également pour son devenir personnel.
Ouais, c'est sûr que ça va être une des interrogations pour Gonzalo Quesada. Est-ce que la pression aussi de Hans-Peter Wild, milliardaire et propriétaire du club, va pas retomber, par exemple, sur Thomas Lombard, et ça va retomber sur Gonzalo Quesada? C'est sûr que ça va être une des questions cette semaine après le match contre Castres. Vaut mieux pour lui que ça se passe bien, pour retrouver un peu de sérénité. On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il voulait renforcer les dirigeants du Stade français, le staff, avec pourquoi pas Xavier Garbajosa, ça ne s'est pas fait. Et c'est vrai qu'il va abattre une carte très importante Gonzalo Quesada ce week-end. Ouais.
Attention, messieurs, hein, chaque année, hein, y a un club comme ça, un gros qui galère. Stade français il y a deux ans, Montpellier l'année dernière. Dans ce top 14 comme ça, ils peuvent traîner ça comme un boulet.
Oui, d'accord, mais
jouer le maintien. Hein.
D'accord, mais avec le budget que le Stade français, tu ne peux pas raisonner comme ça. Tu vois, c'est pas possible.
Oui, mais Montpellier l'année dernière, ils avaient sur le papier une équipe.
Je suis d'accord
aussi,
avec toi, mais c'est.
Il ne faut pas confondre budget et masse salariale. La masse salariale du Stade français n'est pas la plus grosse.
Très bien, ouais. Nous verrons ça. Donc, match important entre le Stade français et Castres le week-end prochain. Si le Stade français et La Rochelle donc, ont à nouveau connu des déboires cette semaine, le Loup, en revanche, a plutôt bien entamé sa saison avec deux victoires et une petite défaite qui les place au rang de dauphin du Stade toulousain à 3 points seulement. Le Loup, large vainqueur ce week-end de l'USAP, 47-3, 7 essais inscrits, dont le premier signé Demba Bamba. Dès la 5e minute, le pilier lyonnais, pas vraiment habitué à franchir la ligne d'embut adverse, il faut dire qu'il en avait gros sur la patate. Demba, c'est notre frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
Un frelon touché, blessé, non pas physiquement, mais moralement, Jeff, par des messages nauséabonds qui avaient fait suite à un raté de Demba la semaine dernière contre Pau.
Ouais, et effectivement, ça devient une mauvaise habitude pour le rugby français depuis quelques temps, quelques jours, puisqu'on rappelle que quelques jours auparavant, c'est le demi-mêlée de Provence Rugby, Ludovic Radoslavevic, tu peux le dire, Denis
Radoslavevic. Non.
Okay. Qui avait été suspendu 26 semaines.
Il ne mérite pas qu'on dise son nom.
Surtout. 26 semaines, surtout 26 matchs pour des propos racistes contre un joueur de Nevers. Cette fois, Demba Bamba, ce n'est pas sur le terrain, c'est sur les réseaux sociaux, des tweetos très courageux qui s'en sont pris à lui, parce qu'il avait fait un match pauvre, très pauvre, comme l'ensemble du club du Loup contre Pau, une défaite alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Il avait fait sa reprise en top 14, lui qui a été international cet été en Australie, ça s'était mal passé sur le terrain et des internautes débiles, des tweetos, l'ont insulté tout simplement avec des propos nauséabonds, racistes. Il était attendu au tournant, il voulait prendre une revanche personnelle, c'est Pierre Mignoni qu'on a parlé en conférence de presse, personne au club n'en avait parlé et ça s'est vu sur le terrain, il était très bon Demba Bamba, preuve de caractère, preuve de force physique, preuve de force mentale aussi avec, tu l'as dit, un essai pour l'international et ça fait plutôt plaisir de voir un joueur qui réagit comme ça et lui il voulait pas polémiquer, il a réagi sportivement et on lui tire vraiment un gros coup de chapeau.
Demba qui après le match parlait d'une revanche personnelle, on l'écoute.
Non, il y a eu plein de réactions un peu partout, le réseau, les amis, la famille. Voilà, ça fait partie de notre métier et des fois il y a des bonnes choses, des fois il y a des mauvaises choses. Et voilà, aujourd'hui on avait à cœur de faire un bon match. On avait besoin de reprendre la confiance. On est parti avec une envie de montrer un autre visage. Moi, j'avais ma revanche personnelle à montrer un autre visage et tout. Et je ne me suis pas concentré sur le reste.
Voilà, insulte à caractère raciste qui inquiète, hein, d'autant que tu le disais, Jeff, c'est pas la première affaire de racisme qui a connu le rugby français depuis le début de la saison. Il y a l'affaire Rado.
Oh non, je sais pas.
Ok, qui a écopé donc de 26 semaines de suspension pour avoir insulté un adversaire. C'est pas très réjouissant tout ça. Alors ça vient du terrain, c'est en dehors, mais en tout cas c'est en train d'installer au sein du rugby.
C'est pas tant nouveau que ça. Rappelez-vous quand même le supporter Rapo qui avait été exclu parce qu'il avait mimé un singe sur un essai de Nagusa. Enfin, le rugby n'est pas n'a pas découvert le racisme cette année. C'est quand même assez ancestral aussi parce que. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs de couleur qui ont percé dans les années jusqu'aux années 90 et que même au Racing, rappelez-vous, quand l'équipe du Racing se grime en noir pour porter soutien à un joueur de son équipe, c'est quand même arrivé. Donc c'est pas vraiment nouveau, c'est horrible. Bien sûr.
En face à El Satouzin.
Bien sûr, mais tu te rappelles de l'histoire.
Mais c'est avec le Momo Lelano.
Exactement.
Il y a eu Racing. Et donc les trois quarts c'était peint en noir de la tête aux pieds.
Parce qu'il avait été victime.
Non mais des fois on en a plein la bouche de ces valeurs du rugby. Et vous savez que dans les endroits un peu reculés ou pas d'ailleurs, il y a aussi des assez sociétal après. Vous allez me dire mais on n'est pas à l'abri de ça et on est touché par ça au rugby. Vous le savez, vous avez déjà entendu des choses dans les plus petits stades, voilà.
Évidemment. Quand le rugby et tous les strates de la société ne sont pas épargnés par le racisme qui est prégnant dans la société et qui déborde sur le rugby.
Ce qui change peut-être c'est les réseaux sociaux et le fait qu'aujourd'hui on peut s'adresser directement à un joueur qu'on connaît uniquement à travers notre petit écran et se permettre de l'insulter, que ce soit raciste ou pas, ça c'est assez nouveau et c'est terrible. Les Bamba,
c'est difficile pour les joueurs, vous imaginez, c'est difficile de passer outre ça quoi. Quand vous êtes un peu, ils y sont sur les réseaux sociaux, donc vous prenez en pleine poire.
Encore quand c'est sur les réseaux sociaux, je trouve que ça touche pas parce que c'est la part d'un abruti que tu connais d'Ida. Oui, mais en revanche sur le terrain, ce qui s'est passé, Rado, là franchement c'est plus grave et là ça mérite une sanction. Je trouve que 26 semaines c'est léger, hein, presque.
Ah non, c'est pas léger.
Il pourra rejouer les deux derniers matchs de la saison.
Mais c'est pas léger parce qu'il est pas récidiviste.
Il a de longs mois à réfléchir.
C'est un garçon qui s'est toujours bien tenu, donc c'est pas là, toi. Donc, il a reconnu son erreur, il a craqué, on a le droit au pardon. Non, mais par contre, la réaction de Bamba, elle est extraordinaire. Elle est pleine de dignité et de sagesse.
Ça fait partie du métier.
Pour en revenir à Bamba, revenir à lui, comment vous jugez sa progression? Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui? C'est vrai qu'il a été annoncé comme le pilier extraordinaire qui devait tout emporter sur son passage. Et puis finalement, on se rend compte qu'il a que 16 caps. Il était en Australie lors de la dernière tournée, mais il n'était que remplaçant.
Il a été titulaire sur le premier match, donc pas atteint le deuxième, je crois.
Il lui manque un...
Ce qui est compliqué pour Demba Mamba, c'est qu'il a été souvent freiné par des blessures ces dernières années. Il y en a eu pas mal. Il a été touché, j'ai regardé, aux cervicales, déchirure à l'ischio gauche, lésion musculaire à l'ischio droit. Ça fait beaucoup. C'est vrai que l'année dernière, il a eu... c'est vrai qu'il est fragile, un gabarit comme ça s'entretient. Et il s'est fait griller la politesse par Mohamed Awas qui est passé devant lui en équipe de France. Et c'est vrai qu'il doit retrouver un nouveau souffle s'il veut s'installer, peut-être comme le numéro 2 à ce poste-là, derrière Awas.
C'est le danger pour ces joueurs-là. Ouais, mais c'est le danger de se blesser pour ces joueurs-là. Ils sont explosifs, il est très musclé. Donc c'est compliqué, mais moi je pense que ça a freiné beaucoup sa carrière, son évolution, les blessures. Il aurait emmagasiné l'expérience à ce poste-là, il aurait franchi un palier.
Il a 23 ans, hein.
Il est très jeune, et pourquoi pas on le verra numéro 3 pour la Coupe du Monde.
Mais il a été annoncé un peu trop tôt, peut-être annoncé comme.
Il a une trajectoire qu'il doit digérer. Il a fait, rappelez-vous, le premier titre de champion du monde des U20, il est énorme sur le terrain, quoi. Et il a la dimension physique pour le ballon en plus pour le très haut niveau. Maintenant, oui, il a des blessures. Sûr, faut qu'il digère tout. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va compter dans les années à venir en équipe de France parce qu'il y a cette dimension internationale. Mais bon, après, voilà, blessure et tout, faut bien digérer ça dans sa tête, quoi.
Pierre.
Je crois que c'est un ovni. Voilà. Je pense que des joueurs comme ça sont rares. C'est sa qualité
d'explosif. Il y a toi et lui qui va passer qui va repartir ou qui va rester sur terre.
Non, je pense que au même titre que Mohamed Awas, il a des qualités physiques extraordinaires. Et puis contrairement au pilier de Montpellier, il me fait plus penser à Cyril Bailly dans sa capacité à jouer avec le ballon. Il est capable de faire des passes après contact, de jouer dans le dos. C'est vraiment un pilier, il est pas loin du très haut niveau international. Ce qui va lui manquer, oui, c'est d'enchaîner les performances, mais à Lyon, il a un entraîneur qui est exceptionnel pour ça, c'est qu'après le deuxième match, match, il a quand même mis un coup de pied au cul à tous les jeunes. Hein. Il leur a dit Demba Bamba et tout ça, ils veulent être en équipe de France, faut commencer par être bon en club.
Moi, je les prendrai pas en équipe.
Voilà, moi, je les prendrai pas en équipe de France. La semaine d'après, ben, Bamba, il met un essai de 25 mètres en mettant deux mecs sur le cul. Je pense que dans les 2-3 prochaines années, jusqu'à la Coupe du Monde 2023, Bamba, il va monter en puissance et ce sera probablement un des cadres de l'équipe de France. En tout cas, je lui souhaite.
Bamba, qui fait partie des garçons sur lesquels Fabien Galthié compte évidemment pour 2023, Coupe du Monde qui se rapproche et dont on va vous parler dorénavant toutes les semaines entre les poteaux. Ah ouais, les French Cancans. Voilà à quoi on va avoir. Ah ouais. Je voudrais faire une petite démonstration, les garçons. Vous mettez tous en rang.
Moi, je vois bien Christophe faire ça, moi.
Non, mais je suis maître.
Avec sa robe.
Pour la cérémonie d'ouverture, tu risques d'avoir un grand, grand French Cancan.
Ah. Voilà, c'est toi qui a mis l'accent là-dessus.
Le seul qui a la jambe assez souple pour faire ça, c'est quand même Denis. Hein, parce que moi, si je fais deux mouvements de French Cancan, je me fais les croisés.
Oh, je suis un peu comme toi. Hein.
Alors, si 2023, ça vous paraît encore très loin, toutes les formations qui joueront le titre à Paris dans deux ans sont déjà en ordre de bataille. Certaines peut-être un peu plus que d'autres. À commencer, évidemment, par ceux qui ont laissé échapper leur titre en 2019. Les All Blacks qui, comme souvent entre deux Coupes du Monde, Wilfried marche sur leur adversaire. Et là, en rugby championship, c'est simple, il n'y a qu'une équipe. Hein.
Ouais, 4 matchs de rugby championship, 4 victoires, 4 bonus offensifs, victoire 36-16 ce week-end contre l'Argentine en ayant changé 12 des 15 titulaires de l'équipe qui avait mis un 39-0 à ces mêmes Pumas. Les Australiens sont aussi passés à la moulinette, hein. 3 victoires des Blacks, cette année ils déroulent, ils sont invaincus, score moyen 53-18. Mais au-delà des chiffres, franchement quand on regarde leur match, il y a de la puissance. On va se dire, oui pour les battre, faut leur casser la gueule. Bah bon courage quand vous croiserez les Tunga Fassi, Tuipolutu, Vahi, Sotutu ou Hardy Savea, ça peut vous faire sourire. Ces consonances, mais demandez aux Argentins qui sont pas des feignants. Les
ça,
Blacks,
ça fait pas rire du tout Denis parce qu'il va devoir les retenir les noms là.
Ils gagnent les collisions, ils avancent toujours, ils vous mettent sous pression. Leurs adversaires d'ailleurs, vous regardez les matchs, dépensent d'ailleurs une énergie folle, balle en main. Et en plus, ils renouvellent leur effectif avec des Taikeao, Ethan Blackadder, Luke Jacobson, Will Jordan. Retenez bien ces noms, c'est la relève des Blacks. Et puis ensuite, messieurs, si vous aimez le rugby, mesdames aussi, hein, je vous conseille de regarder les matchs parce que parfois, ces rencontres entre Nations du Sud, on prend pas le temps de les voir. Le samedi, on se dit, ouais, je vais me manger 8 heures de canapé avec le top 14. Mais vous allez vous régaler. La technique individuelle parfaite, le geste juste au bon moment, c'est une symphonie. Ouais. Hein. La première mi-temps face à l'Argentine, c'était une symphonie. Ils en mettent 36 alors qu'il y a deux essais somptueux qui sont refusés. Et pour finir, après les noms que je vous ai cités, ils pourront toujours s'appuyer sur les tauliers, Moody, Whitelock, Kretalik, Aaron Smith qui a passé le cap des 100 sélections cet été, Boden Barrett à l'ouverture qui deviendra lui centurion lors de la tournée de novembre en Europe, Rieko Ioane qui a été déplacé de l'aile, au centre et mon Dieu qui va à une vitesse, ou encore Sevouris, 10 essais en 13 sélections. On va aller voir les deux week-ends de suite face aux champions du monde sud-africains là, qui eux sont dans le dur. Et puis surtout, Denis, en novembre au Stade de France, ce sera leur dernier match, hein. Ils jouent 5 matchs d'affilée en Europe, aux États, enfin en Europe, d'abord aux États-Unis, au Pays de Galles, en Italie, en Irlande et en France le 20 novembre.
On va bien les prendre au bon moment là, tu vois.
Ouais. Sur le dernier match.
Dans 2 mois, bah, j'espère qu'ils seront pas là comme ils sont en ce moment parce que attention,
écoute, pour l'instant ils sont ils marchent sur l'eau mais après ils sont même battables. C'est vrai que ce qui est difficile de mesurer, c'est savoir l'opposition, la qualité de l'opposition. Parce que j'ai toujours un doute avec les Australiens.
Les Springboks, ils sont champions du monde.
Non, mais les Australiens, j'ai un doute. La preuve, c'est que nous, on a fait bonne figure.
La preuve, c'est qu'on a failli les battre et qu'on les a.
Non, mais avec l'équipe B.
Et puis, Wilfried dit, il faut regarder les matchs d'entrée Nations du Sud. J'en ai regardé quelques-uns. Il y a aussi des bonnes purgettes. C'est-à-dire, Argentine, Afrique du Sud, pour aller dans ton sens, Denis, niveau catastrophique.
Non, mais l'Argentine faiblard. Moi, je pense qu'on est au-dessus aujourd'hui de l'Argentine. On est au-dessus des Australiens.
Et au-dessus des blagues.
Non, pas au-dessus des blagues, mais je pense qu'il y aura combat, il y aura, ça va faire, il me tarde d'y être, il me tarde de voir la qualité de l'équipe de France, mais.
Et peut-être qu'il y aura une Coupe du Monde tous les deux ans, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ah, c'est horrible, ça.
Non,
je suis pas pour ça.
Il y a des gens, et World Rugby, ils trouvent ça très bien, des gens que tu connais.
Ouais. T'es proche des amis.
Très bien. Les All Blacks qui sont redevenus la nation numéro un mondiale, ce lundi, et qui vont donc affronter les Springboks, à deux occasions, donc la semaine
double
prochaine et celle d'après. Donc, ça va quand même être du très costaud, et on verra si on arrive à battre cette équipe dans deux ans. On rappelle que c'est face à qui le match d'ouverture?
Nouvelle-Zélande.
C'est face à la Nouvelle-Zélande.
Ce qu'on va leur mettre.
Et il y aura
qu'est-ce qu'ils vont prendre?
Un pays africain également qui jouera dans notre poule. Mmh. Et sachez que le tournoi de qualification Afrique aura lieu en France. Ce sera à l'été 2022.
Imagine un France-Algérie à Marseille pour la Coupe du Monde.
On a hâte de voir cette Coupe du Monde.
Ah oui.
Il va falloir encore attendre 2 ans. Tu as 2 ans pour apprendre le nom de tous les All Blacks. Hein.
Oui.
Et tous les ton chien.
Ils sont pas très durs, ça.
Non, ça va. Ceux-là, tu les maîtrises. Merci les garçons. On se retrouve lundi prochain, évidemment. Entre les poteaux, toute l'actualité de tous les rugby. Ciao, ciao.